Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table.
Pour une fois, en fait, je pense qu'on va pouvoir mettre les couilles sur la table. C'est pour
littéralement.
Ça que... Oui, parce que j'ai amené une petite bouteille de testostérone et voilà, je vais la mettre sur la table.
Ce 40e épisode des couilles sur la table, je vous propose d'écouter la pensée singulière d'un philosophe révolutionnaire qui a un point de vue tout à fait exceptionnel et puissant sur le genre et les masculinités. Mon invité est philosophe, il est commissaire d'exposition. Il a notamment écrit les livres Manifeste contrasexuel, Pornotopie et Testo Junkie. C'est un extraterrestre qui aime passionnément la Terre et les êtres qui y vivent. Et il va nous emmener faire un tour sur la planète Uranus. Bonjour Paul B. Preciado.
Bonjour.
Vous n'êtes pas un homme, vous n'êtes pas une femme, vous n'êtes pas homosexuel, vous n'êtes pas hétérosexuel. Vous êtes un homme trans, à comprendre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous êtes un transfuge de genre, je reprends vos mots, un transfuge de genre, mais aussi de la langue, un fugitif de la sexualité, un dissident du régime de la différence sexuelle. Et dans vos textes, vous nous invitez à penser loin, très loin, au-delà des catégories qui nous semblent évidentes. Vous avez signé ces 5 dernières années, tous les 15 jours dans Libération, des chroniques qui m'ont fait chaque fois l'effet d'une bombe. Et c'est souvent très poétique, toujours politique. Et ces chroniques viennent d'être rassemblées dans un livre qui s'appelle « Un appartement sur Uranus ». C'est publié chez Grasset. Alors, votre pensée, elle est très incarnée. Elle est intimement liée à votre vécu, à votre parcours, à votre quotidien. Et donc, ça me paraît nécessaire pour les auditeurs qui nous écoutent de connaître un peu de votre histoire pour mieux comprendre les concepts dont nous allons parler pendant cette conversation. Est-ce que vous voulez que je vous présente ou est-ce que vous préférez le faire vous-même ?
Non, allez-y, je veux bien être présenté, bien sûr. Entendre mon histoire racontée par quelqu'un d'autre, bien sûr.
Alors, je raconte votre histoire ou ce que j'en connais. Donc, vous êtes né à Burgos. C'est une petite ville en Castille, au nord de l'Espagne. C'était dans les années 70 et c'était encore le régime du dictateur Franco.
Oui, tout à fait.
Et votre propre famille, elle est catholique, elle est de droite, elle est hétérosexuelle, tout à fait intégrée dans la société. Vous, vous êtes assignée fille à la naissance. Vos parents, ils vous donnent le prénom et ils vous élèvent comme Béatrice. Et c'est...
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Une enfance très très normative. Vous êtes élevé dans une école de bonnes sœurs. Et à l'époque, vous rêvez de devenir prêtre ou alors torero.
Oui, c'est vrai. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas les mêmes rêves et tout, mais je pense que ouais, dans, un peu dans l'horizon qui s'ouvrait à moi quand j'étais enfant, je me disais que quand même, il y avait un certain rapport peut-être avec la transcendance, les divins et avec l'animalité.
Et maintenant, ce sont des choses qui existent encore très très fort dans votre pensée et dans vos textes.
Peut-être oui. Ouais.
Bon, après, vous étudiez aux États-Unis. Vous faites un doctorat en philosophie à Princeton, puis après vous étudiez en France avec Jacques Derrida. Et très tôt, vous vous découvrez comme lesbienne, ce que vous avez été la plus grande partie de votre vie. Et puis après, vous avez commencé à expérimenter avec la testostérone. Vous dites que la testostérone, c'est comme vous avez joué avec, comme un chaman avec une substance magique, comme avec l'ayahuasca par exemple. Donc ça, c'était il y a une quinzaine d'années. Et puis en 2016, vous avez demandé à changer votre état civil. C'est-à-dire à vous appeler Paul B. Preciado, le B étant là pour appeler Béatrice. Vous écrivez que maintenant, vous vous tenez à la frontière, sur le perron de la langue, du genre et de la sexualité. Comment est-ce qu'on voit le monde quand on est en équilibre sur cette frontière ?
En fait, je ne suis pas sûr en fait, d'être toujours à la frontière. C'est-à-dire que souvent, puisque la société est très binaire, on est poussé à être d'un côté ou de l'autre. Mais par contre, c'est vrai que qu'on en devient trans. Et donc, du coup, on est aussi forcé par un régime politique du genre de la sexualité à choisir un camp, on devient beaucoup plus conscient de ces frontières des genres. C'est comme si tout d'un coup, en fait, on voyait autour de nous une énorme cartographie des frontières. Pas uniquement, effectivement, les frontières habituelles, celles des États-nations, mais aussi des frontières du genre, des frontières de la sexualité, des sexes,
de la race,
du handicap, enfin, qui sont constantes, sont partout. Et des coups, en fait, je suis devenu en fait très touché par la traversée, par le fait de traverser constamment. Évidemment, traverser déjà une frontière, c'est déjà une chance, parce qu'on peut rester, évidemment, avant la frontière. Hein, on peut être forcé à signer à résidence ou être forcé à rester avant. Donc c'est déjà, quelque part, en fait, c'est avoir eu la chance
de pouvoir traverser.
Ouais, de commencer ces traversées.
C'est justement le premier concept dont je voulais qu'on parle, parce que c'est un concept central dans votre pensée, cette frontière, et plutôt la contestation de cette frontière-là, de la frontière de ce que vous appelez l'épistémologie de la différence de genre, ou la binarité du genre. Donc le mot a l'air un peu compliqué, là, épistémologie, mais c'est absolument fondamental. Donc est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce que ça signifie et quelle place ça occupe, cette binarité, cette épistémologie binaire dans notre société, dans notre culture ?
Oui, c'est pas uniquement un concept à moi. En fait, en réalité, c'est vrai que je m'appuie beaucoup en fait sur la pensée féministe queer, aussi sur les lectures queer et anticoloniales de Foucault. Et donc, Foucault parlait d'épistémé. Et après, en fait, les féministes qui ont lu et qui se sont appropriés politiquement de Foucault ont commencé justement à parler du régime sexe-genre. Comme un régime des savoirs, un régime des connaissances.
Une manière de voir le monde, en fait.
On pourrait dire une manière de voir le monde, mais ça serait vraiment trop, ça reste trop abstrait. Mmh. En fait, c'est moi j'aime bien dire avec Foucault que c'est un appareil de vérification. Je parle en fait de cet appareil de vérification, c'est-à-dire un ensemble des discours, des institutions, un ensemble des représentations qui à chaque fois nous permettent de décider si quelque chose est vrai ou fausse. Et notamment, justement, ces régimes binaires qui nous permet constater, soi-disant, en fait, dans la naissance, au moment de la naissance, parfois même avant la naissance et tout au long de la vie, la vérité du genre,
du sexe
et de la sexualité. Et donc, qui nous permet de dire si quelqu'un est un homme ou une femme. Bon, ce qui est important, en fait, c'est savoir que cet régime, donc cet appareil de vérification, cet ensemble des institutions, des discours, des représentations sur le binarisme sexuel et du genre est extrêmement récent. C'est-à-dire, en fait, qu'à partir du XVIIIe siècle, qu'on commence vraiment à travailler donc, les sciences médicales, biologiques, mais aussi les institutions juridiques et les institutions, en fait, éducatives, etc., commencent à travailler, justement, avec un système de représentation binaire, masculin, féminin. Et que, donc, les femmes, par exemple, en fait, c'est ce qu'on appelle femmes, qui est, bon, pour moi, voilà, une fiction politique inventée pendant la modernité. Elles existent en tant que sujet politique uniquement à partir du XVIIIe, du XIXe siècle. Et quelque part, en fait, les femmes, aujourd'hui, continuent à lutter pour défendre cet statut des sujets politiques.
Donc, ça a commencé avec le droit de vote, etc. Mais après,
exactement. C'est-à-dire qu'il y a toujours, en fait, plusieurs niveaux sur lesquels, en fait, cet régime de la différence sexuelle va opérer. C'est-à-dire qu'il opère en tant qu'anatomie, c'est-à-dire qu'il produit la vérité du sexe et du corps. Et d'autre part, en fait, il fonctionne aussi en tant qu'institution juridique, en tant que régime des représentations et des reconnaissances de la citoyenneté. Et donc ça, c'est à partir des moments, en fait, à partir du XVIIIe siècle, quand les régimes médicaux ont commencé à reconnaître la différence anatomique des femmes, donc des coups à inventer, à fabriquer un corps. Puisqu'en fait, avant le XVIIIe siècle, il y a un seul corps, les corps masculins. Les corps féminins est un corps secondaire, un corps subalterne, faible, et donc une variation, plus ou moins dégénérée, des seuls corps qui ont
entité. Ah, c'est en ce sens-là, parce que quand même, voilà. Les médecins de l'Antiquité et tout, ils parlent des hommes, des femmes, etc.,
oui,
mais pas comme
fait.
Équivalent, en fait.
Effectivement, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas une... On va dire en fait que les corps de femmes n'ont pas des souverainetés, c'est-à-dire n'ont pas un statut de vérité face à l'anatomie et face à la loi. Il existe en fait, évidemment, en fait, les gens parlent des femmes et dans la littérature et dans la loi. Mais bon, ça m'intéresse même, enfin, le fait que cette émission s'appelle en fait les couilles sur la table.
J'ai hésité à vous poser la question, est-ce que ça vous inspirait d'ailleurs ce titre ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand en latin, quand on parle des témoins, des testifiés, des témoignés, en fait, on parle des testicules.
Qui sont les témoins de la virilité.
Exact. Pas simplement qui sont les témoins de la virilité, c'est qu'en fait, une femme ne peut pas en fait témoigner. Devant la loi, parce qu'elle n'en a pas des testicules, et que du coup, elle ne peut pas porter une parole de vérité. Donc, c'est ces rapports entre vérité et pouvoir qui sont intéressants, en fait, et que cette épistémologie de la différence sexuelle produit. À mon avis, cette épistémologie de la différence sexuelle est rentrée en crise. On est face vraiment à une crise épistémologique, au moins à partir des années 40 et 50. Et donc, par exemple, les nouvelles notions telles qu'intersexualité ou transsexualité.
Ou non-binarisme ou...
Non-binarisme, si vous voulez. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux niveaux. Il y a d'une part, c'est comment ces régimes de la différence sexuelle qui va reconnaître uniquement la vérité anatomique et juridique des deux corps, et tout autre corps ne sera pas reconnu en tant que corps vivant humain. Donc, comment ces régimes entrent en crise à cause, tout simplement, en fait, de la multiplicité des vivants, de la complexité de la vie. Ça, c'est justement... Et ça, c'est très clair dans les années 40 et 50, quand les médecins commencent à se dire, bon, bah, visiblement, il y a des corps, des bébés, des nouveau-nés, qui ne peuvent pas être assignés immédiatement à la masculinité ou à la féminité.
Donc, c'est toutes les personnes intersexes.
Mais ce que je voudrais, en fait, c'est que... Parce que pour moi, en fait, on est rentré dans un délire de la nomination. C'est-à-dire qu'en fait, on a cru, et justement, c'est pour ça que je suis extrêmement critique par rapport aux politiques des identités.
On va y venir juste après. Du coup, voilà. J'ai plein de questions après, mais juste pour terminer sur cette épistémologie de la binarité, là.
Oui.
Vous dites que ça a une place de religion, en fait, de nos jours. Il y a des hommes, il y a des femmes, chez les animaux, ça se voit, il y a des femelles, il y a des mâles, point barre. Et ça nous paraît tellement évident que du coup, ça nous paraît délirant, les gens qui remettent ça en cause, en fait.
C'est ça, oui.
Vous dites que ça occupe la même place que, par exemple, au Moyen-Âge, on disait bah, le Christ est divin, et la personne qui oserait remettre en cause ça, c'était une personne hérétique. Et vous dites que le binarisme de genre, ça occupe la même place dans la société aujourd'hui.
Oui, parce qu'en fait, ce que s'est passé tout autour entre les 15e et les 18e siècles, c'est que justement l'épistémologie religieuse a été déplacée par une épistémologie scientifique. On aurait pu penser, en fait, bon, génial, hein, l'épistémologie scientifique, c'est toujours mieux.
C'est la rationalité.
Oui. Sauf qu'on sait que c'est cette épistémologie scientifique qui était au service aussi de l'expansion du capitalisme qui a inventé les notions modernes des différences raciales et des différences du sexe. Donc, du coup, elle a inventé pas simplement justement une épistémologie, donc un système de représentation, il a inventé aussi une hiérarchie des pouvoirs. Un système de pouvoir. Et donc, des coups, quand on essaye de lutter contre ce régime politique, contre régime politique, soit en fait de la colonisation, donc un régime racialisé, soit les régimes de la différence sexuelle, ou bien en fait aussi les régimes de l'hétérosexualité politique, en fait, il faut justement contester les notions scientifiques. Des coups, il faut s'opposer à la science. Mmh. Et c'est ça qui ont fait, si vous voulez, en fait, tout un ensemble de féministes à partir des années 70, notamment, par exemple, les travaux de Donna Haraway étaient très, très, très importants à cet égard. Justement, ils ont commencé, en fait, à critiquer, à faire une lecture, une déconstruction féministe des discours scientifiques. Évidemment, si vous voulez, cette critique a amené aujourd'hui à contester la notion des races comme une notion scientifique. Aujourd'hui, personne ne saurait plus en fait parler de la race comme une notion scientifique. Et de la même manière, je pense en fait, et c'est ça qui, de mon point de vue, en fait, arrive à l'intérieur de cette étude queer et de cette étude trans. On est en train de contester aujourd'hui les binarismes sexuels et du genre comme une vérité scientifique. Et ça, il faut savoir, parce que peut-être en fait la plupart des auditrices, auditeurs et autres ne savent pas, c'est un débat qui est aujourd'hui courant, y compris à l'intérieur de la science.
Mmh. pour terminer avec ça, il y a un argument qui revient tout le temps, qui est pareil, se présente comme scientifique. On va vous dire, oui, mais y a la maternité. Les femmes ont des utérus, font des enfants, et ça, la maternité, ça montre bien qu'il y a les deux. Je ne dis pas que je pense ça, je dis que c'est toujours la carte qui est sortie en disant, oui, mais enfin, quand même, c'est évident, tu vois bien qu'il y a deux genres. Qu'est-ce que tu racontes?
Bon, ben ça, c'est extrêmement intéressant, parce que justement, quand la différence sexuelle et les corps des femmes a été inventée, fabriquée par ces discours scientifiques tout au long en fait, de la modernité, et surtout au XVIIIe, XIXe siècle, il a été inventé comme un corps maternel, comme un corps des femmes qui peut en fait contenir la vie et donner la vie. Donc c'est un discours que j'appelle, avec Foucault aussi, biopolitique. Et en fait... il faut réfléchir assez tranquillement, c'est-à-dire qu'en fait, un utérus ne veut pas pourtant dire en fait un acte de reproduction. Voilà, donc si vous voulez, en fait, je pense que c'est à cet exercice-là, en fait, des désidentifications critiques auxquelles je fais appel souvent dans mon travail. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'utérus égale maternité, mais absolument pas. D'une part, en fait, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'utérus, voilà, pour différentes raisons. De la même manière qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas des ovaires, il y a des corps masculins qui contiennent un utérus, par exemple les miens. Voilà. Donc je suis une preuve, si vous voulez, un corps vivant, fiction politique, incarnée, preuve vivante, en fait, qu'on peut vraiment être donc, un homme avec un utérus. Et donc, il y a, si vous voulez, c'est les rapports... Ces rapports constitutifs, normatifs, obligatoires entre sexe, genre et reproduction. Et évidemment, en fait, à partir du moment où on a pensé les corps des femmes comme un corps uniquement reproductif, oui, c'est le moment en fait, où la souveraineté des femmes est pensée par rapport à la maternité et au fait de donner la vie. Mais qu'est-ce qui se passe des corps, y compris des corps qui contiennent un utérus à l'intérieur, des femmes avant et après l'accouchement? C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, il faudrait dire, en fait, les femmes sont uniquement femmes pendant les moments, en fait, si vous voulez, qui vont donner la vie. Ou une autre manière de dire ça, c'est de dire, en fait, que c'est l'utérus qui est féminin et pas du tout les femmes. C'est un organe qui me passionne parce que c'est un organe qui est tout en étant à l'intérieur des corps des femmes, c'est-à-dire les femmes qui ont accéder à être reconnu en tant que sujet politique tout au long du XXe siècle avec beaucoup, beaucoup d'efforts, et pas dans toutes les sociétés, mais bon, mettons que dans la nôtre, en fait, elles sont accédées en fait à être sujet politique. Néanmoins, les corps des femmes, cette fabrication de la modernité qu'on appelle corps de femme, corps féminin, contient à l'intérieur un organe qui est quand même l'objet d'une convoitise incroyable. C'est-à-dire que c'est l'objet perpétuellement escouatté par toutes sortes de régimes. Évidemment, escouatés par l'hétérosexualité, par les patriarcats, par l'État, par l'industrie médicale et pharmacologique, etc. Donc, si vous voulez, en fait, c'est ça que la féministe Joanne Scott appelle la citoyenneté paradoxale. C'est ouais, les femmes, elles sont accédées à les statuts de citoyenneté, elles sont reconnues en tant que sujet politique, mais attention, parce que voilà, elles sont un organe, elles possèdent à l'intérieur d'elles un organe qui n'est pas tout à fait un corps émancipé. Donc, on est encore dans un processus d'émancipation de l'utérus.
Par rapport à ça. Okay.
Effectivement. Mais sauf que, comme ce qui va nous arriver très bientôt, c'est que pendant que nous, on discute sur qu'est-ce que c'est la féminité, la masculinité, tout ça, en fait, en réalité, voilà qu'et avec l'intelligence artificielle et la biotechnologie, on va effectivement construire l'utérus artificiel, mais vraiment. Et à ce moment-là, effectivement, les notions des masculinités et des féminités telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles seront totalement obsolètes.
Bien sûr.
Et voilà, et il faudrait redéfinir c'est quoi la féminité au-delà, justement, d'être pensée en tant que maternité. Et donc, je pense que c'est ça qui est intéressant dans le féminisme aussi. C'est un mouvement des femmes, peut-être parfois dissidentes par rapport à la réduction de la subjectivité à la maternité.
Vous êtes un homme trans ? Oui. Mais vous précisez aussi toujours que c'est pas votre identité, parce que vous, l'identité, ça vous intéresse pas, en fait, les questions d'identité. Vous voulez pas de révolution identitaire.
Non, c'est-à-dire, en fait, que moi, je ne pense pas quelle identité peut être les lieux à partir duquel on peut construire la lutte politique. Moi, je pense que c'est ça, et c'est là la seule différence, en fait, qu'on peut avoir, finalement, par exemple, avec les mouvements nationalistes et néonationalistes, avec les mouvements d'extrême droite d'aujourd'hui, qui, justement, vont cristalliser des notions d'identité vraiment très très fermées, et c'est dire que c'est à partir de ces notions-là qu'ils vont construire leur imaginaire politique et l'activité en fait des transformations politiques et de la lutte. Pour moi, absolument pas. Moi, je ne suis pas intéressé. C'est-à-dire, l'identité, justement, c'est un effet rétroactif des appareils des pouvoirs. J'étais, oui, assignée femme à la naissance, mais femme n'est pas du tout mon identité. Et tout mon exercice vital n'est un exercice de désidentification. Mais y compris, en fait, trans, parce que je pourrais dire, bah non, je ne suis pas femme, mais en fait, est-ce qu'en réalité, je suis un homme, et donc je vais être dans un exercice...
Sauf que vous n'êtes pas là-dedans, justement.
Non, non, parce qu'en
vous,
fait...
Vous êtes dans la traversée, vous écrivez que vous êtes dans un processus de créolisation. Interne, et qu'il faut accepter qu'on ait sans arrêt changement, mutation, métissage, et qu'on n'a pas à s'arc-bouter là sur notre identité de genre, ou nationale, ou raciale, ou... ça n'a pas
alors, de validité. Les seuls problèmes, en fait, si vous voulez, c'est que évidemment, l'identité n'a pas les mêmes valeurs pour les gens qui sont reconnus en tant que citoyens, donc citoyens qui ont une citoyenneté totale, et ces corps-là, ces corps vivants-là, qui ne sont pas reconnus, même parfois en tant qu'humains.
Donc concrètement, ça veut dire ceux qui ont la citoyenneté totale, c'est en gros des personnes cisgenres.
Ça dépend.
Ça dépend des régimes politiques.
Exactement.
Ça dépend des situations.
Exactement.
Et tout ça.
Et d'ailleurs, il faut savoir, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est que notre statut et notre reconnaissance par rapport à la loi, par rapport au régime politique, est constamment en train d'échanger. C'est-à-dire que, par exemple, ouais, peut-être vous vous assignez femme, mais demain, vous avez un accident, vous vous cassez, en fait, trois vertèbres et vous restez paralysé, et à partir de ce moment-là, ciao, vous n'êtes plus de tout femme, parce qu'en fait, votre appareil reproductif n'intéresse plus à personne, et vous êtes considéré à partir de ce moment-là comme handicapé. Et de la même manière, si vous, demain, en fait, vous êtes séropositif, c'est votre séropositivité, en fait, qui va connoter la totalité de votre accès à la vie, de votre accès aux soins, aux qualités de vie, etc. Mm-hmm. J'ai commencé à percevoir avec beaucoup plus d'intensité les changements constants d'identité. Quand je me suis retrouvé moi-même en train de faire ma transition, et j'étais à Athènes, et en même temps, en fait, j'avais beaucoup d'amis en fait qui étaient migrants, qui étaient réfugiés. J'ai travaillé avec beaucoup d'artistes en fait qui étaient soit des artistes syriens, irakiens, etc.
Oui, parce que vous avez dirigé, je précise juste, la Documenta.
J'ai travaillé en tant que commissaire
d'exposition
à Documenta,
pour la Documenta,
exactement.
Qui est une énorme exposition européenne.
Voilà, qui est la plus grande exposition européenne d'art contemporain. Et là, effectivement, j'ai vu qui est en fait des gens que j'ai connaissais, des artistes, etc., qui étaient des artistes syriens, passaient des jours au lendemain, passaient d'être, prof à l'université, à se retrouver justement dans la condition des réfugiés sans papier et dans une totale précarité politique, économique
et matériel, et
des coûts en
même
fait...
Même pas traités comme des êtres humains.
Effectivement. Mmh. Et donc, des coûts, en fait, cette identité, ce qu'est l'identité, y compris, en fait, si vous voulez, dans l'hétérosexualité. Est-ce que, par exemple, j'avais un ami dont je peux dire le nom, Hiwaka, qui est un artiste extraordinaire, très connu, en fait, qui me disait, depuis que je suis réfugié, je compte même pas, en fait, comme hétéro, parce que les filles me voient comme un réfugié. Mmh. Et donc, personne s'intéresse à moi, en tant que personne me dit, en fait, est-ce que tu veux vraiment coucher avec moi ou quelque chose ? Parce que, à la limite, me proposer, en fait, si je vais dormir chez elle, mais tout simplement pour m'accueillir. Mais non, mais je suis vraiment un sujet désirant, vivant avec mes propres désirs. Et donc,
ça montre bien que l'identité, c'est jamais une essence, mais c'est toujours une relation.
Exactement, exactement.
Et moi, je trouve ça important de le redire, parce qu'en fait, j'ai reçu plusieurs mails Et parfois, j'ai l'impression que donc, c'est mal compris le travail qu'on fait ici, parce qu'il y aurait cette idée que, en fait, on repartirait à la recherche de la masculinité, qu'est-ce que ça veut dire être un homme, etc. Et aussi, par exemple, on m'a envoyé des invitations pour des événements qui me laissent perplexe, de type retrouver son essence féminine profonde, ou alors festival du masculin sacré, avec des choses comme... mais en même temps, je comprends qu'on ait envie d'y aller, que ça paraisse, parce que c'est pas... Encore une fois, c'est pas des mouvements masculinistes, identitaires, qui seraient dans la haine des femmes et tout, mais ils sont dans un truc où, par exemple, ils vont écrire « Nous sommes là, tous ensemble, entre hommes, pour expérimenter un masculin en transition », qui utilise le mot « transition », pour réaliser...
Bérou est sur un trône des racistes.
Donc, je vous dis, une masculinité en transition qui serait orientée vers l'union du féminin et du masculin en soi, et avec, vous voyez, avec des majuscules. Et en fait, ça me fait penser aussi aux arguments qu'on entend parfois, et dans la bouche de personnes qui sont plutôt progressistes et tout, de dire oui, mais en fait, l'important, c'est quand on a un homme, c'est d'accepter sa part de féminité et tout ça, et de réaliser l'union entre ces deux parties et tout. Et sauf que...
Mais vous voyez bien, en fait, justement, la force des épistémologies binaires dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, ça m'arrive beaucoup en tant qu'homme trans. Parfois, les gens me disent, ouais, t'es trans, mais en fait, quel pourcentage des masculinités, des féminités? Je dis, non, mais vous, c'est totalement fou. Enfin, déjà, justement, la question, c'est si l'identité politique est une fiction. Mais une fiction politique, en fait, c'est-à-dire que vous incarnez une fiction politique vivante. C'est pour ça, en fait, que parfois, on peut, en fait, être dans une démarche, on va dire, entre guillemets, hyper-identitaire, par moment, pour défendre sa position face à un certain régime politique.
Ça vous pensez à quoi, par exemple ?
Je pense, par exemple, parce que j'ai connu, en fait, dans la culture lesbienne, en fait, à un moment donné, il a fallu faire des rencontres lesbiennes séparatistes. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les lesbiennes étaient souvent très, très attaquées par les hommes, entourées par un discours lesbophobe très fort.
Même dans les mouvements féministes et tout.
Absolument, et donc, les mouvements féministes étaient quand même, on peut dire, en fait, un sommet des lesbophobies, hein, à part d'être un grand placard. Mais enfin bref, tout ça, c'est rejoint, en fait.
Parfois, il y a des besoins ponctuels comme ça, et que je comprends aussi, mais bref, il faut insister sur le fait que l'identité, c'est jamais une essence, quoi, et que ça n'existe pas, l'essence du masculin, c'est toujours des fictions aussi.
Oui, mais j'ai dit ça, en fait, parce que parfois, quand on dit une fiction politique, les gens se disent, ouais, mais bon, une fiction politique, toi, peut-être, tu peux vraiment y accéder. Mais quand on est une femme noire migrante, et ni fiction politique, ni histoire, en fait, on est renvoyé constamment à cette identité-là. Et donc, c'est pour ça que je dis que parfois, il faut de ces stratégies, justement, d'affirmation identitaire, comme stratégie des résistances politiques.
Okay.
Donc c'est pour ça en fait que je comprends qu'il faut parfois justement un mouvement des femmes, mettons par exemple des femmes noires européennes, qui vont justement redéfinir leur identité. Là où pour moi ça devient intéressant, c'est quand cette redéfinition, c'est aussi un processus de désidentification et pas simplement en fait un processus de renaturalisation de l'identité.
Bon, mais du coup, dans les événements auxquels je fais référence, je crois que c'est pas trop l'idée.
Non,
quoi.
Là,
c'est
je pense, plus, ouais, mais semble. Bon, il faudrait quand même peut-être, il faudrait expérimenter, faire la pratique, j'en sais rien. Hein,
oui, mais c'est bon, je voulais vraiment répondre à cet argument du retrouver sa part féminine, sa part masculine et tout, comme si ça existait de temps immémoriaux et comme si c'était une histoire de nature et tout. Alors, bon, bref, tous les travaux que vous citez et tout ce qu'on fait aussi dans l'émission montrent bien qu'il n'y a pas de nature masculine et il n'y a pas de nature féminine. En fait, ça n'existe pas, ces trucs-là. C'est pas.
Pour moi, il n'y a pas de nature. Non, il n'y a pas. Non, mais il y a un réservoir. En fait, moi, je vois les corps comme une archive politique vivante. Et donc, comme il y a un réservoir historique des représentations de la féminité, de la masculinité, qui sont tellement puissantes.
Puis tellement anciennes, c'est vrai. Ça dure depuis des millénaires.
Bien sûr.
Notre culture et tout. Donc, en fait, il ne faut pas non plus nier. La force, le poids de ces représentations-là.
Exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se construire, on ne peut pas fabriquer justement une subjectivité dissidente sans faire appel à des représentations historiques ou politiques. À un moment donné,
on
n'en
est pas
ça...
de nulle part, quoi. On
exactement.
Pas, bien sûr.
Et c'est pour ça que parfois, justement, c'est tellement important. Par exemple, ce que vous faites, faire une émission, tout d'un coup, en fait, sur la masculinité, oui, c'est très important. Parce que du coup, vous arrivez, en fait, à faire passer, à faire glisser des discours dissidents à l'intérieur des médias dans lesquels souvent, ce qu'on entend justement, c'est la répétition des représentations normatives de la féminité et de la masculinité.
De ce qu'est la bonne masculinité, guerrière et tout. Et c'est vrai qu'un des projets de l'émission, c'était de faire l'inventaire de tous ces rôles-là et de dire, bah, ok, ça a existé, ça a un poids culturel, etc. Mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas une essence. Quoi. Vos chroniques, ce sont aussi celles de votre transition. Et vous êtes très, très généreux avec vos lecteurs et vos lectrices parce que vous expliquez comment ça se passe concrètement, votre transition, à plein de niveaux, dans votre quotidien, par rapport aux appareils d'État, aux administrations, etc. Donc moi, j'ai appris plein de trucs, aussi parce que je suis cisgenre. Et donc, je ne suis pas directement confrontée à cette oppression-là, ou plutôt, j'en bénéficie, enfin, de ce privilège-là. Donc, en vous lisant, on comprend, on apprend comment nos institutions de pays considérés comme démocratiques, éclairés, etc., traitent concrètement les corps qui échappent à la norme. Par exemple, vous expliquez que vous, pour changer votre état civil, donc vous résignez quelque part à devoir faire ça, et vous rappelez que pour l'État espagnol, pour qu'il y ait ça, et en France aussi, c'est le cas, il faut qu'il y ait un médecin psychiatre qui ait reconnu que vous avez une dysphorie de genre, c'est-à-dire une forme de pathologie, en fait. Et vous écrivez, voilà, si j'avais voulu changer la forme de mon nez ou de ma bouche et tout, c'était ok, j'irais dans chez un chirurgien esthétique, mais pour changer de genre, il faut demander la permission à papa.
Ouais. Mmh. Ouais, bah, ça ressemble pas mal à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, sur l'utérus. C'est-à-dire que, en réalité, on a fait de l'expérience trans quelque chose de très, très marginal. Hein. Comme s'il y avait vraiment un pourcentage très, très, très petit de la population en fait, qui était trans. Et que, du coup, à nous, il nous arrive des choses très, 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 très étranges. C'est-à-dire, ouais, nous, on doit changer.
Vraiment des cas exceptionnels, ouais, bizarres et tout.
Ouais. Ouais. Mm. Et moi, je pense que absolument pas, en fait. Je pense que la transsexualité, elle est aussi... Enfin, c'est l'effet d'un processus de régulation politique technique, également que la féminité cisgenre, également que la masculinité. C'est-à-dire qu'on n'est pas plus étrange qu'on en est trans. Dans notre société, on va construire tous, en fait, une fiction politique du genre de la sexualité, toujours, en fait, avec un certain nombre de ce que j'appelle, en fait, des prothèses sociales, des genderisations, des productions de genre.
Donc, c'est-à-dire, des prothèses sociales de...
Des productions
de
genre.
Okay.
Ouais. C'est-à-dire, en fait, que, par exemple, si vous n'avez pas, en fait, un passeport, et ce qui est quand même assez intéressant si vous y pensez, c'est-à-dire que en 2019, nos passeports disent masculin ou féminin. Et c'est quand même très important. C'est-à-dire que, par exemple, on se souvient peut-être encore, et dans certaines cultures, c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'était le cas en Espagne, en Grèce, en Turquie ou d'autres, dans lesquelles, en fait, la religion apparaissait marquée
sur
les passeports. Mmh. La différence sexuelle apparaît vraiment indiquée sur nos passeports. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, l'assignation au genre masculin ou féminin, elle précède l'acceptation d'un corps à l'intérieur la société politique. Si vous n'êtes pas reconnu en tant que femme ou en tant qu'homme, vous pouvez pas accéder à la citoyenneté. Donc moi, par exemple, en fait, si vous voulez, je milite en tant que transféministe et je pense en fait qu'aujourd'hui devrait être le combat central du féminisme. C'est demander en fait l'abolition de l'assignation de la différence sexuelle à la naissance. S'il n'y avait pas en fait d'assignation de différence sexuelle à la naissance, on n'aurait pas besoin après de s'identifier en tant que trans. On n'aurait pas en fait des protocoles de traitement de l'intersexualité, donc des protocoles qu'on peut dire aujourd'hui sont des protocoles extrêmement violents qui
c'est
impliquent
de la mutilation,
aussi
hein, génitale,
mutilation donc, génitale et auxquelles s'opposent
souvent...
C'est-à-dire
juste pour... C'est-à-dire qu'on opère des tout petits bébés qui n'ont pas des organes génitaux qu'on pourrait appeler...
C'est-à-dire, c'est là en fait où l'épistémologie est importante, c'est-à-dire que chaque corps qui vient au monde, chaque corps qui va naître justement va être mesurer dans son degré de masculinité ou de féminité par rapport à une échelle, c'est l'échelle Prader, avec, et aussi il y a les protocoles Money, qui est justement un système de représentation. Et donc, du coup, si vous n'avez pas, en fait, un certain nombre de centimètres dans vos organes génitaux, si vous n'avez pas, en fait, un chromosome, mais voyez, en fait, que tout ça, c'est des systèmes de reconnaissance. C'est ce que j'appelle l'appareil de vérification fameux.
C'est voilà, comme ça, c'est, voilà, on a un bon exemple.
Cet appareil de vérification. Et donc, si vous, votre corps ne peut pas être immédiatement reconnu par ce système de reconnaissance en tant que masculin ou féminin, évidemment, vous allez être objet d'un ensemble parfois, en fait, si vous voulez, des opérations chirurgicales, aussi des traitements endocrinologiques,
et qui vont
commencer dans la petite enfance, mais qui souvent continuent tout au long de la vie. Donc aujourd'hui, les mouvements intersexuels s'opposent absolument, si vous voulez, à cette traitement, que ces traitements soient appliqués sans les consentements des personnes impliquées. Et d'autre part, en fait, on est beaucoup des théoriciens, des activistes aujourd'hui, justement, à mettre en cause la possibilité d'affirmer la différence sexuelle, donc comme un système de reconnaissance universel, biologique, anatomique, et donc on demande tout simplement d'arrêter d'assigner du sexe à la naissance.
Donc ça veut dire qu'on arrêterait de dire bravo, c'est un garçon, bravo, c'est une
oui,
fille.
Oui, tout à fait.
Exemple.
On dirait en fait bravo, vous avez eu un corps vivant.
Un enfant.
Et donc un enfant, mais un enfant, mais encore plus qu'un enfant. Moi, je pense en fait, si vous voulez, tout mon combat philosophiquement en fait revient tout simplement à la reconnaissance des corps vivants en tant que vivants. Et donc dans une transversale très très large,
y compris les animaux.
Effectivement, y compris les animaux, y compris tous les êtres vivants, y compris la planète dans son ensemble. Puisque en fait, je pense que en réalité, c'est de là justement ma critique de la logique des identité, c'est qu'en fait, tout nous pousse à faire notre vie les plus étroites possibles, et donc dire, ben voilà, vous êtes femme, hein, et soyez contente de l'être.
Vous êtes femme, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un être humain,
exactement,
vous n'êtes pas un animal.
Exactement, mais la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Voilà, donc,
c'est vrai que tout votre livre est vraiment là-dessus, c'est pour ça que je dis que vous aimez passionnément et la Terre, et les vivants, et la Terre comme être vivant aussi.
Exactement. Et, donc, et aussi en tant que philosophe, puisqu'en fait, je pense que la question, justement, de la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, le néolibéralisme a transformé la liberté en libre marché. En fait, on parle plus de la liberté. On parle plus. On a l'impression que la liberté, c'est, voilà, on est dans un régime démocratique, et donc, du coup, bah, la liberté, c'est la liberté d'acheter et le libre marché. Et donc, je pense qu'il faut un nouveau discours de la liberté et que, par exemple, tout mon combat n'est autre qu'effectivement inventer des techniques spécifiques de fabrication de la liberté. Puisque la liberté n'existait pas, elle n'est pas quelque part, il faut la trouver, mais il faut la inventer.
Ou la rendre possible, il faut créer des conditions qui la rendent possible.
Mais encore plus que la rendre possible, si vous voulez, la inventer. Parce qu'en fait, est-ce que les problèmes, encore une fois, justement, d'un régime épistémologique, y compris en fait du capitalisme qui nous entoure, c'est l'impossibilité de penser, d'imaginer, de désirer au-delà de ces régimes. Et c'est là que justement la traversée trans, pour le coup, elle est magnifique, parce qu'en fait, une fois qu'on s'est dit trans, sauf si on est effectivement dans un processus de réassignation totale et on s'est dit, bon voilà, maintenant je suis un homme et c'est tout. Mais si on comprend en fait que justement on est dans la traversée, bah, à partir de ce moment-là, bah, il faut accepter qu'effectivement on est pas un homme, on n'est pas une femme.
On n'est pas hétéro, on n'est pas homo,
si on n'est pas ni un homme ni une femme, bah forcément on n'est pas hétérosexuel ni homosexuel. À partir de ce moment-là, c'est pas non plus être bisexuel, c'est absurde. Donc effectivement, c'est la condition même des vivants, et donc cette condition même des ré-érotisations du monde, de pansexualité totale, y compris avec la nature, qui revient en fait.
Ré-érotisation du monde, en dehors de tout binarisme de genre, pansexualité totale avec la nature, recherche de la liberté, combat contre la masculinité, voilà qui ouvre de nombreuses questions auxquelles nous allons répondre, chers auditeurs, dans la seconde partie de ce grand entretien avec Paul B. Preciado. Vous allez voir, ça va devenir très très concret puisque maintenant que les principaux concepts théoriques ont été posés et expliqués, nous allons discuter des rapports entre écologie et masculinité toxique, des attaques haineuses contre les personnes trans et de la non-binarité, mais ça c'est à écouter dans l'épisode suivant. En attendant, je vous conseille de lire les chroniques de Paul B. Preciado qui s'appelle « Un appartement sur Uranus » et publié aux éditions Grasset. Et puis comme d'habitude, moi vous pouvez m'écrire à l'adresse lescouillessurlatable@binge.audio et aussi sur Instagram, Facebook et Twitter. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.
Binge.